Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Invité de l'émission, c'est l'homme fort de la Corse. Hier, il menait ce grand rassemblement dans les rues d'Ajaccio pour appeler le gouvernement à ouvrir le dialogue. Après-demain, il accueillera Emmanuel Macron, le chef de l'État, sera en Corse pour rendre hommage au préfet Claude Erignac, 20 ans jour pour jour après son assassinat. Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, viendra nous rejoindre dans un instant. Pour intervenir sur Facebook Live ou sur Twitter, vous connaissez le mot-clé Question Paul.
France Inter, Question politique, Ali Badou.
Et avec moi en studio, l'équipe de questions politiques, Jeff Wittemberg de France Télévisions. Bonjour Jeff.
Bonjour Ali.
Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Bonjour à tous.
Avant d'accueillir en studio Gilles Simeoni, rapide tour de table, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? On commence par vous Jeff.
Eh bien ce qui a retenu mon attention Ali cette semaine, c'est la prise de position de Marlène Schiappa dans l'affaire dite Jonathan Daval. Je ne vous raconte pas cette affaire, mais je rappelle les faits. La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes a estimé mercredi que la ligne de défense de l'avocat de cet homme qui est accusé du meurtre de sa femme, que cette ligne de défense était, je cite, « scandaleuse ». Dérapage. Marlène Schiappa a outrepassé son rôle. Marlène Schiappa a oublié la séparation des pouvoirs. Que n'a-t-on lu et entendu sur cette prise de position? La secrétaire d'État a même été recadrée par son puissant collègue, patron de La République En Marche, j'ai nommé Christophe Castaner. Sauf que Marlène Schiappa n'a rien retiré de ses propos et que pour beaucoup de gens, elle a eu raison de les tenir. Car oui, évoquer, comme l'a fait cet avocat, la personnalité prétendument difficile, une personnalité écrasante, paraît-il, d'une femme qui a été tuée, oui, pour beaucoup de Français, c'était difficile à entendre. Au final, qu'est-ce qui a été le plus choquant, les propos de l'avocat ou ceux de Marlène Schiappa? Et ce qui est certain, c'est que Marlène Schiappa, qui a droit à deux grandes pages d'entretien ce week-end dans Le Monde, votre journal, Françoise, défend sa cause avec brio. Et si cela fait un peu de dégâts dans le train-train des habitudes et des prudences de nos politiques, eh bien, visiblement, elle l'assume et ses chefs assument avec elle. Nous n'avons entendu ni Édouard Philippe ni Emmanuel Macron considérer que Marlène Schiappa avait dépassé les limites.
Marlène Schiappa qui sera d'ailleurs du voyage présidentiel en Corse après-demain. Françoise.
Une autre femme, Anne Hidalgo. Sa très mauvaise image de marque en ce moment, révélée par un sondage Elab pour Les Échos et Radio Classique, 18% seulement des Français disent avoir une image positive de l'édile. Plus grave pour elle encore, seulement 32% des sympathisants de gauche l'apprécient. Elle a chuté de 23 points depuis le mois de mai. Alors évidemment, il faut relativiser. Ce sont les Français dans leur ensemble qui se prononcent, pas les Parisiens. Les municipales sont encore loin. 2020, rien n'est joué. Il n'empêche, cette mauvaise image de marque, elle est un avertissement. Car d'ordinaire, les maires sont aimés des Français. On salue leur proximité, leur dévouement. Anne Hidalgo bénéficie en outre d'une conjoncture favorable. La préparation des Jeux Olympiques de 2024 sur laquelle elle a fait beaucoup de publicité. Mais rien n'y fait. La maire de Paris est aujourd'hui en difficulté sur le thème de prédilection de la gauche, l'écologie. On lui reproche pêle-mêle la saleté de la ville, les rats, la fermeture autoritaire de certaines voies sur Belge, le retard pris par les nouveaux libres, la façon dynamique dont les contraventions sont désormais collectées à Paris via une société privée très zélée. Tout cela dit la mairie de Paris, est fait pour la bonne cause. La qualité de l'air, la santé des enfants. Mais faute d'explication, et peut-être aussi de rondeur, la maire de Paris est devenue le symbole d'une écologie punitive à rebours de l'air du temps. Alors aujourd'hui, dans une interview au journal du dimanche, elle se défend avec vigueur. Elle assure que la pollution a reculé de 30% en 10 ans. Elle met en valeur la gratuité du pass Navigo pour les personnes âgées à faible revenu, et bientôt pour les adultes handicapés. Bref, elle met un peu de social et d'humain dans son écologie, mais est-ce que ce sera suffisant?
La question est posée. Karine.
Écoutez, moi je trouve qu'on a vécu une petite révolution tout de même cette semaine. Tout va tellement vite qu'on a déjà oublié, mais je rappelle que le gouvernement a quand même annoncé, ça s'est passé jeudi, qu'il allait modifier le statut des fonctionnaires et qu'il allait organiser un plan de départ volontaire pour tous ceux qui souhaiteraient quitter la fonction publique. Alors, réformer le statut des fonctionnaires, je dis pourquoi pas. Que des surveillants de prison, par exemple, qui gardent des détenus terroristes, soient payés de la même façon que ceux qui gardent des prisonniers de droit commun, c'est un problème qu'on essaie de le régler, c'est plutôt une bonne idée. En revanche, le plan de départ volontaire, dans le contexte actuel, est une idée, me semble-t-il, extrêmement dangereuse. On a des fonctionnaires aujourd'hui qui sont à bout, qui n'en peuvent plus, qui n'ont plus les moyens de travailler, dans les hôpitaux, dans les tribunaux, dans les prisons, donc j'en parlais à l'instant, dans les EHPAD, dans les écoles, leur donner la possibilité de partir, avec un petit pactole, parce que là on parle quand même d'un plan de départ volontaire. Donc leur donner la possibilité de partir pourrait réduire, bien au-delà des espérances du gouvernement, le nombre des fonctionnaires. Et dans ce genre de plan, ce sont souvent les meilleurs, qui n'ont pas peur, qui s'en vont les premiers. La question que je pose, elle est très simple, c'est quelle sera la qualité de nos services publics dans 5 ans? Voulons-nous le même niveau de services publics qu'en Angleterre, par exemple?
Très bonne question. Celle-là aussi est posée. Pour lui, quel est le fait de la semaine? L'invité de questions politiques aujourd'hui, il est arrivé d'Ajaccio il y a quelques heures. Il est en train de s'installer dans le studio 221 de la Maison de la Radio. Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni. Bonjour monsieur. Et bienvenue, merci d'avoir fait le voyage pour être avec nous. La Corse vit des moments importants, peut-être déterminants. On va prendre le temps de comprendre vos espoirs, vos revendications pour la Corse, ce que vous direz également au président de la République. On va parler de tout ça, mais d'abord, quel est pour vous le fait de la semaine, Gilles Simeoni ?
Alors, merci beaucoup pour votre invitation, je suis très heureux d'être devant vous et avec vous aujourd'hui. Le fait de la semaine, si je devais parler de la Corse, ce serait peut-être la manifestation.
Celle d'hier.
Mais de façon plus globale, les déplacements du président de la République sur le continent africain. Je pense que aussi bien au Maghreb que dans l'Afrique noire, je crois que c'est un enjeu fondamental pour la France, pour l'Europe et pour le monde. Donc voilà, je crois que c'est en arrière-plan l'éducation, l'accès aux ressources, la gestion, le développement, de nouvelles relations, le passé aussi avec l'aspect mémoriel des relations entre la France et ses anciennes colonies. Je crois que là, il y a vraiment un champ de réflexion et d'action pratiquement inépuisable.
Avant de retourner en Corse, petit détour par la métropole et par une autre île que la vôtre, Gilles Simeoni. Celle-là est bien plus au nord. C'est le zapping politique et il y signé Laurence Perron.
Au moment où l'année tourne sur ses gonds et où les arbres font dentelle, il faut penser printemps. Alors, faisons printemps. Dam, 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 dam,
dam, dam. La France a les pieds dans l'eau, les gardiens de prison sont à deux doigts de se faire la malle. La jeunesse entreprend de commémorer à sa manière mai 68.
On veut pas de ta sélection, Macron, pognon. On veut pas de ta sélection.
C'est lors des premières manifestations, après l'entrée en service de Parcoursup, la nouvelle plateforme d'inscription après le bac.
Déjà KPB c'était pas génial, mais alors là ça gâche tout. Et puis c'est trop réservé à l'élite et ceux qui ont eu un parcours moyen, ils ont pas assez de chance. Je suis pas une super bonne élève, donc si ça passe, moi je vais galérer.
Aucune hésitation, on veut pas passer les choses.
Faisons printemps.
À l'Assemblée nationale, les Insoumis tentent aussi de rallumer le feu. Là c'est François Ruffin, en soutien à la grève des personnels des EHPAD.
Durant les vacances de Noël, la mère d'une amie âgée de 90 ans est tombée chez elle. Les pompiers l'ont conduite à l'hôpital d'Amiens au service gériatrie. Dès son arrivée, les soignantes l'ont prévenue. Nous ne sommes que 3 pour 30 patients. Nous n'aurons pas le temps de nous occuper de vous. Cette promesse fut tenue. Que prévoit concrètement votre budget de la sécurité sociale? 0 création de postes. Cet automne, vous avez trouvé 5 milliards en toute urgence. Mais c'était pour les riches, pour supprimer leur impôt sur la fortune. Pour les pauvres, c'est toujours en millions. Pour les riches, c'est en milliards. Alors, Madame Buzyn, nous vous le demandons. Pas un mot, pas une phrase. Faites simplement un geste. Sortez le carnet de chèques.
Merci.
L'automne avait été promis brûlant, l'incendie social a fini pétard mouillé. Alors le Nouveau Monde prend ses aises. 120 000 départs volontaires vient d'annoncer Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, soutenu depuis la Tunisie par le chef de l'État.
On ne peut pas prétendre transformer le pays en disant l'action publique serait une espèce de citadelle protégée qui, elle, n'a pas à se transformer, n'a à s'adapter à rien. Ce serait faux. Et vous allez finir par expliquer aux Françaises et aux Français, je ne peux pas vous apporter un meilleur service, je ne peux pas baisser vos impôts parce que j'ai le statut. Dam, 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 dam,
dam, dam. Lui n'était pas fonctionnaire, mais à la tête d'une grande entreprise publique, Mathieu Gallet, le PDG de Radio France, a finalement été démis de ses fonctions par le CSA. Motif, l'exemplarité. Une affaire que les politiques n'ont pas très envie de commenter. Olivier Marleix, député LR de Ré-Loire, aux un petit trait d'esprit.
À un moment, on a supposé qu'il aurait pu bénéficier de protection en lieu. Visiblement, ça n'a pas été le cas.
Et pendant ce temps en France, au nom de l'exemplarité encore, d'autres appels à la démission. Celui-ci est signé Laurent Wauquiez. Il réclame la tête du ministre Darmanin, visé par une plainte pour viol qu'il conteste.
Je pense qu'il est très difficile pour les Français de comprendre qu'un ministre qui fait l'objet de telles accusations soit maintenu au gouvernement. Et il y a un vrai problème de cohérence de la part d'Emmanuel Macron et du Premier ministre. Comment comprendre que ce qui valait il y a encore quelques mois pour des emplois fictifs ne serait pas appliqué pour des accusations aussi graves que des accusations de viol?
L'exemplarité en Angleterre, on ne plaisante pas avec. Pour une minute de retard aux questions de la Chambre des députés, le ministre Michael Bates présente sa démission. J'ai tellement honte, dit-il, de ne pas avoir été à ma place à l'heure, alors je présente ma démission immédiatement. Démission finalement refusée, et oui, la courtoisie british versus l'hédonisme français.
Alors, faisons printemps.
Merci Laurence Perron. Une réaction, Gilles Simeoni ?
C'était très bien.
C'était très bien. Vivement le printemps.
On verra.
Ali Badou. Question politique.
Midi et quart, le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, est notre invité. Tout de suite, votre portrait. Il est signé Karine Bécard.
Gilles Simeoni, vous avez d'abord été aux yeux des Français l'un des avocats d'Ivan Colonna. C'était il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et avant cela, à dire vrai, on ne vous connaissait pas. Et puis aujourd'hui, vous réapparaissez. Vous n'êtes plus juriste, vous êtes un politique, président de la Corse, en quelque sorte. Enfin, le patron de la région, plus exactement, à la tête de ce qui est désormais appelé très officiellement la collectivité territoriale unique. En fait, ce qui est assez frappant dans votre parcours de nationaliste, Gilles Simeoni, c'est que tout s'est fait par les urnes et que tout est allé très vite. Par exemple, franchement, à aucun moment vous n'aviez envisagé, il y a 2 ans, de gagner tout de suite les élections territoriales. Vous, l'autonomiste, vous avez osé une alliance avec les indépendantistes et elle s'est immédiatement avérée bénéfique. Cela dit, ce qui est amusant, c'est que juste un an auparavant, en 2014, c'est une toute autre alliance politique, avec des dissidents de droite et de gauche, qui vous a permis de décrocher Bastia, dont vous avez été maire pendant 21 mois. Du coup, on vous dit sympathique, Gilles Simeoni, je n'en doute pas. Mais vous semblez aussi très habile et sacrément pragmatique. En tout cas, vos victoires sur Émile Zuccarelli, donc, d'abord, et sur Paul Giacobbi, ensuite, ont mis fin sur l'île à quelques vieilles dynasties politiques. De là à dire que vous êtes le héros en Corse du dégagisme, ce serait oublier que vous aussi, vous êtes le fils d'Edmond Simeoni, une légende du nationalisme qui a connu les actions violentes parfois et la prison, vous a fait vivre les chantages et les intimidations. Voilà pourquoi peut-être au combat par les armes, vous avez préféré miser sur les batailles électorales. Des batailles électorales qui font qu'aujourd'hui, vous êtes reçu partout, on ne parle que de vous, ce qui doit être assez grisant, assez tourbillonnant. La difficulté, c'est que vous avez suscité, Gilles Simeoni, et vous le savez, beaucoup d'espoir, et ce sera compliqué de ne pas décevoir.
Une réaction, Gilles Simeoni ?
Merci pour cette présentation. C'est toujours intéressant et important de voir le regard que les autres peuvent avoir sur nous. Bon. La chose que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, gagner les élections, c'est important, mais ce n'est pas tout. On gagne des élections pour essayer de transformer la société, de l'améliorer. Donc nous avons eu des victoires électorales, tant mieux, des victoires démocratiques, c'est essentiel. Il nous reste maintenant à avoir des réussites et des victoires politiques. C'est un enjeu qui est devant nous et j'en ai conscience. Et ça dépasse de loin ma personne, c'est une entreprise collective, mais j'y contribuerai de toutes mes forces.
Et ça passe notamment par ce dialogue que vous espérez ouvrir avec le gouvernement et le président de la République. Démocratie et respect pour le peuple corse, c'était l'un des mots d'ordre hier dans les rues d'Ajaccio. Des milliers de personnes ont répondu à votre appel. Gilles Simeoni, c'était une manière de préparer le comité d'accueil pour le président de la République ?
C'est une manifestation qui a été décidée au lendemain de notre visite, Jean-Guy Talamoigne et moi-même.
Une visite à Paris, vous avez rencontré Édouard Philippe et Gérard Larcher, le président du Sénat.
Tout à fait, et où nous avons en fait reçu des fins de non-recevoir totales sur toutes les demandes, et surtout sur toutes les demandes qui avaient été validées par le suffrage universel en décembre dernier, et notamment notre réussite électorale avec 56% des suffrages, qui est important et qui était sans précédent dans l'histoire contemporaine de la Corse. Donc nous sommes venus à Paris avec une volonté de dialogue qui persiste aujourd'hui. En quelque sorte, nous nous sommes trouvés face à une porte fermée, et nous nous sommes dit que si le président de la République devait venir en Corse pour confirmer cette orientation, ça nous conduirait dans une situation de blocage et donc de crise politique que nous ne voulons absolument pas. Et donc nous avons notamment organisé cette manifestation.
Françoise Fressoz.
Vous avez voulu faire un appel populaire après les élections de décembre qui vous ont effectivement conforté. Mais est-ce que vous pensez que la mobilisation hier a été à la hauteur des espérances ? La police dit 7 000 à 8 000 manifestants, vous dites 15 à 20 000. Est-ce que, pourquoi il y a un tel écart ? Et est-ce qu'il y avait le monde que vous souhaitiez hier dans les rues d'Ajaccio ?
Alors, Gilles Simeoni.
Sur l'écart, il est traditionnel qu'il y ait des écarts importants entre les
et
chiffres
pourtant,
de la police.
Pourtant, ça ne se passait pas à Marseille, mais un tel écart, c'est assez rare.
Les chiffres des organisateurs. Très sincèrement, je suis surpris et même choqué par les chiffres qui sont annoncés par les services de la préfecture. Ils sont manifestement très en deçà de la réalité. Et pour répondre directement à votre question, au-delà des chiffres, la manifestation d'hier a été une réussite éclatante.
Parce que pas de débordement,
aussi,
c'est surtout ça.
D'abord,
non, parce
d'abord
que
la participation.
En chiffres, c'est quand même pas.
Non, en chiffres, si vous aviez hier, je pense, entre 12, 15, 18 000 personnes à Ajaccio, c'est l'équivalent de 3 millions de personnes sur le continent.
À condition qu'ils y soient.
Mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que, et ce qui est certain, c'est que encore tout le monde considère qu'on soutient la manifestation, qu'on ne la soutienne pas, qu'elle a été une grande réussite en termes d'affluence populaire, malgré des conditions météo extrêmement difficiles. Et je crois qu'à Paris non plus. On sait aujourd'hui que cette manifestation a été une réussite. Et je dirais aussi que finalement, normalement, on n'aurait pas dû avoir besoin de cette manifestation, parce que c'est vrai que les urnes ont parlé il y a un mois. Mais malheureusement, on se rend compte que pour l'instant, on n'écoute pas ce qu'a dit le suffrage universel.
Gilles Simonelli, c'est important les chiffres. Pourquoi, selon vous, la préfecture dit qu'il y a eu entre 6 et 8 000 personnes? Est-ce que c'est volontaire de sa part de sous-estimer ce que vous estimez, vous, être un grand succès populaire?
Alors, vous m'apprenez ce nouveau chiffre. Hier, c'était de 5 à 6 000.
Alors, oui,
aujourd'hui
alors, disons entre 5 et 7 000.
Et je ne doute pas
que,
parce que le préfet et ses services sont des gens honnêtes et lucides, je crois que ça va monter ensuite de 12 à 14 ou à 16.
Mais moi, il y avait les journalistes qui étaient au col du monoprix, comme on dit, pour essayer de compter les manifestants à Ajaccio.
Vous savez, c'était une manifestation énorme, sans équivalent depuis, justement, par exemple, les manifestations qui avaient eu lieu à l'occasion, malheureusement, de l'assassinat du préfet Erignac. Et dans un tout autre contexte, puisque là, il y avait la mort d'un homme et une émotion terrible, et la manifestation d'hier, on était sur une mobilisation purement politique. Ceci étant, moi, je vous le dis très sincèrement, je l'ai dit hier au préfet de Haute-Corse, au préfet de Corse du Sud, je lui ai dit, il est absolument anormal de présenter des chiffres qui sont manifestement sous-estimé et délibérément sous-estimé, parce qu'on prend le risque de transmettre une information qui est fausse à Paris, et on prend le risque de donner, notamment au président de la République, qui va venir dans quelques jours, des informations qui sont inexactes et qui ne lui permettront pas de prendre la mesure de l'attente et de la mobilisation des Corses.
Mais c'est fait exprès, selon vous,
monsieur? À mon avis, il ne peut pas y avoir d'erreur. C'est fait exprès, forcément.
Bon, on va arrêter avec la bataille des chiffres. Ce qui est intéressant, malgré tout, c'est que dans le cortège, il y avait Charles Pierry. Charles Pierry, c'est un des anciens chefs présumés du FLNC. C'est un peu gênant, non, qu'il soit dans le cortège?
Écoutez, il y avait Charles Pierry. Gilles Simonelli. Il y avait Charles Pierry, et dans ce cortège, il y avait surtout des milliers de personnes. J'ai eu l'occasion de le dire. Moi, Charles Pierry, il est militant de Corsica Libre, qui est un parti qui est partenaire. Moi, je n'ai pas à choisir.
De Talamoni, effectivement.
Oui, je n'ai pas à m'immiscer dans le choix des responsables ou des militants de Corsica Libre. Pour ce qui me concerne, j'ai dit et j'ai démontré que notre chemin ne peut pas être un autre chemin que celui de la démocratie, de l'éthique, de la transparence, que c'est pour cela qu'un nombre grandissant de Corses nous ont fait confiance. Et je considère aussi que les dirigeants d'aujourd'hui, les responsables d'aujourd'hui, de premier plan, ne sont pas ceux des générations précédentes. Et que de ce côté-là aussi...
Ça veut dire que tout le monde peut se ranger derrière vous, monsieur Simonelli, y compris des gens qui ont été condamnés pour des faits de violence? Vous acceptez en quelque sorte tous les militants corses?
Bien sûr, nous n'écartons personne du soutien à la dynamique que nous avons initiée, ni d'un côté ni de l'autre. Vous savez, il y avait hier dans la manifestation des gens qui ne sont pas nationalistes, il y avait des gens de gauche, il y avait des gens de droite. Nous discutons et nous travaillons aussi avec des gens qui étaient hier des adversaires politiques irréductibles, et je crois que tout ça participe aussi d'une logique d'apaisement de la société corse.
Donc maintenant, vous n'avez pas peur d'être débordé par ces gens-là?
Débordé, absolument pas. Moi, je l'ai dit et je le répète, il n'y a personne qui me tient le bras. Il y a
pas d'influence.
Il y a...
Fantasme ou réalité, Gilles Simonelli? Alors, parce que c'est une note qui a été révélée par l'Obs le 20 novembre dernier. La préfecture de Corse évoquerait des pressions de type mafieuse. Les mots sont entre guillemets exercés par Charles Pierry, chef de clan. Il peserait de tout son poids par sa présence au débat interne, par des messages qui pointent parfois la menace pour obliger indépendantistes à autonomistes pour faire liste commune. C'était avant le premier tour des élections corse de décembre dernier.
J'ai eu connaissance de cet article, bien évidemment. Je n'ai absolument pas eu connaissance de cette note. Ce que je peux vous dire, c'est que ni Charles Pierre ni personne ne fait pression sur moi. Ni Charles Pierre ni personne ne fait pression sur nous. Et que les choix que nous avons pris, que nous prenons et que nous prendrons, seront des choix qui seront faits librement et en conscience.
Donc c'est du fantasme.
Présentés aux Corses, expliqués aux Corses et validés par les Corses.
Vous présentez un peu comme le garant de la non-violence. Comment être sûr qu'il n'y aura pas de violence en Corse, étant donné le processus assez difficile de relation avec l'État sur le nouveau statut que vous réclamez?
Depuis que je me suis engagé de façon significative en politique, j'ai toujours plaidé effectivement pour la disparition totale et définitive de la violence clandestine. Et de ce côté-là, il est important aussi de souligner que dans le pacte stratégique que nous avons passé avec nos partenaires indépendantistes, il est dit, écrit et réaffirmé que cette disparition de la violence clandestine doit être irréversible et qu'il ne peut pas y avoir d'autre chemin, ni aujourd'hui, ni demain, que celui de la démocratie pour la Corse et pour les Corses. Je crois que c'est très clair. Donc, lorsque je fais le constat et lorsque nous faisons, par exemple, le constat d'une situation de blocage dans le dialogue que nous voulons avec le gouvernement.
Oui.
Ce n'est pas pour exercer un quelconque chantage de retour à la violence. Je suis très clair de ce côté-là, et nous sommes très clairs de ce côté-là. Par contre, ce que je dis aussi, de façon très tranquille et très sereine, c'est que si on n'écoute pas la démocratie, si on ne prend pas en compte l'expression du suffrage universel, ce qui ne veut pas dire que les nationalistes ont aujourd'hui le monopole de la légitimité en Corse. La société corse est plurielle, elle est pluraliste, il y a des opinions qui ne sont pas les nôtres et qui ont tout autant voix au chapitre que la nôtre. Mais il y a aussi l'expression du suffrage universel. Et puis au-delà du vote de décembre dernier, si on n'ouvre pas une perspective politique qui permette de régler par le dialogue, de façon progressive et concertée, en trouvant des points d'équilibre, des questions qui sont des questions politiques, économiques, sociales, culturelles, à ce moment-là, on crée une situation de blocage, on met en quelque sorte un couvercle sur la marmite, et forcément, on risque d'aller vers des situations de tension et peut-être de violence.
Ah ben donc vous dites l'inverse de ce que vous disiez précédemment, c'est-à-dire que si l'État ne cède pas, on peut aller, vous venez de le dire, vers de la tension et peut-être de la violence.
Non, je conteste absolument votre interprétation de ma présentation, je ne fais aucun chantage. Moi, je suis un responsable politique, je viens d'une histoire individuelle et collective, où j'ai connu la violence, comme tous ceux de ma génération, où je l'ai même quelquefois subie à travers des attentats et des tentatives d'assassinat qui ont été perpétrées contre des membres de ma famille, mon père, mon oncle, par exemple.
Oui.
Cette histoire, elle est là. Et puis, je sais aussi qu'il y a, en Corse, 20% de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, qui sont dans une situation de précarité économique et sociale totale.
Justement,
je sais qu'il y a des jeunes qui n'ont pas de travail. Je sais qu'il y a des agriculteurs qui ne peuvent pas accéder à la terre. Et je dis que l'ensemble de ces éléments fait qu'il y a aujourd'hui une situation qui est une situation potentiellement explosive. Et que ma responsabilité... bien sûr, et que notre responsabilité, nous, élus de la Corse, que nous soyons nationalistes ou que nous ne le soyons pas, c'est bien sûr de tout faire pour que la violence, et notamment la violence clandestine, disparaisse définitivement. Mais je crois que c'est aussi la responsabilité des gouvernants français, que de créer les conditions politiques, non pas pour céder à un chantage de notre part, mais pour ouvrir un dialogue que nous demandons.
Le problème que vous avez
Karine puis Françoise.
En ce moment, c'est qu'on entend vos revendications. Le gouvernement, en revanche, soit n'y prête pas trop attention, soit en tout cas pour l'instant, fait comme si elles n'existaient pas. Donc il va peut-être falloir quand même changer un tout petit peu de stratégie. Est-ce que vous y pensez à ça ?
Gilles Simonelli.
Présenter les choses différemment.
Alors, tout à fait. Et c'est pour ça que je suis heureux d'être devant vous, pour avoir aussi le temps de les expliquer. Je crois que souvent, on résume nos demandes ou notre approche à des approches très idéologiques par rapport à des points qui font débat, voire blocage, comme par exemple la question de l'amnistie, le statut de résident, la co-officialité. C'est vrai que
on va en parler parce que ce sont des questions importantes
qui bloquent. Ce sont
des points très
importants pour nous. Mais vous savez, je suis président du Conseil exécutif de Corse. Nous sommes aux responsabilités. Et nous savons que les Corses nous ont aussi élus pour que nous répondions aux problèmes du quotidien. Le problème du chômage, le problème du développement de l'intérieur, le problème des transports, le problème de la formation, le problème des déchets. Et nous voulons résoudre ces problèmes. Et nous voulons les prendre à bras le corps. Et nous disons aussi que, de ce côté-là, nous avons un partenariat constructif à établir dans le dialogue avec le gouvernement et avec l'État.
Non, mais là, vous en parlez au futur. Ça fait 2 ans que vous êtes à la tête de la région. Donc, qu'est-ce que vous avez fait déjà ? Quel bilan vous avez sur le...
Je peux vous dire que nous avons beaucoup travaillé dans tous ces domaines. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les Corses nous ont réélus.
François Soissons.
Alors, très concrètement, Emmanuel Macron arrive dans l'île mardi. Qu'attendez-vous de lui ? Des annonces concrètes, une amorce de dialogue, des propositions ? C'est quoi l'attente ?
Gilles Simeoni.
L'attente, elle est forte. Et ce n'est pas seulement la mienne. Je dirais que c'est celle de tous les Corses. Je le disais tout à l'heure en aparté, je pense que les quelques jours, la séquence politique récente entre notre venue à Paris pour rencontrer le Premier ministre et la venue du Président de la République est une séquence décisive pour la Corse, et qu'elle va nous engager pour les mois et pour les années à venir. Et donc, très clairement, le président de la République, qui est, dans la Ve République, la clé de voûte des institutions, a fortiori avec la dimension qu'a donnée à la fonction présidentielle Emmanuel Macron depuis son élection. C'est-à-dire que toutes les décisions stratégiques sont prises par lui.
Par lui.
Et celui qui... aujourd'hui à les clés du déblocage de la situation.
Ce sera son premier voyage sur l'île comme président. Ce qui est intéressant, c'est de penser au candidat Emmanuel Macron, qui s'était évidemment rendu en Corse dans le cadre de la campagne. C'était en avril 2017 à Furiani. Voilà ce qu'il disait, la place de la Corse est dans la République, parce que la République est suffisamment forte pour accueillir des particularités en son sein. Et il poursuivait, et ça j'imagine que vous y pensez encore aujourd'hui, s'il apparaît que le cadre actuel ne permet pas à la Corse de développer ses potentialités, alors nous pourrons envisager d'aller plus loin et de réviser la Constitution. Vous allez lui rappeler ses propos de candidat, Gilles Simeoni ?
À mon avis, je n'aurais pas besoin de les lui rappeler. Il les aura parfaitement à l'esprit. Il y a eu un autre fait politique essentiel qui a peut-être été un peu éclipsé par la manifestation de samedi. c'est vendredi soir à l'Assemblée de Corse. Nous avons présenté, le Conseil exécutif et l'Assemblée, une résolution commune, une résolution solennelle, autour de quatre points, et notamment la nécessité d'intégrer la Corse dans la révision de la Constitution et de construire un nouveau statut d'autonomie. Et cette résolution a été votée non seulement par la majorité territoriale, non seulement
par des élus,
mais également par le groupe Anda Perdouman, ça veut dire, c'est en Corse, mais c'est pas des nationalistes.
Traduction.
Se sont avancés pour demain. Et c'est donc le groupe qui soutient, qui est dirigé par Jean-Charles Orsucci et qui est le soutien d'Emmanuel Macron. Et ce groupe a voté, je dis pas avec nous, nous avons voté ensemble. Et nous avons voté cette résolution. Et donc, y compris la force politique qui aujourd'hui représente la République En Marche, le groupe qui représente la République En Marche, est sur cette demande de révision de la Constitution, de rapprochement des prisonniers, de construction d'un véritable statut d'autonomie et également de développement économique, social et culturel.
Alors, attendez,
qui doit être
mené dans la justement, de la Constitution, c'est très important parce que, en fait, Emmanuel Macron répond. On veut faire un droit à la différenciation valable pour les régions françaises, c'est-à-dire certaines régions pourront développer des compétences que d'autres n'auront pas. Et vous, vous dites, non, il faut une reconnaissance spécifique à la Corse. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un terrain d'entente entre ces deux positions-là?
Alors, un peu de pédagogie d'abord, Gilles Simeoni, pour tous ceux qui n'ont pas le texte de la Constitution en tête. La Corse n'apparaît pas nommément dans l'article 72 qui reconnaît donc la possibilité aux régions, à certains territoires, de pouvoir adapter les lois et les règlements à leur sol.
Alors, sans rentrer dans un débat trop technique et trop juridique, effectivement, l'article 72, pour l'instant, ne reconnaît pas explicitement la Corse, pas plus que les autres articles de la Constitution. En gros, l'article 72, c'est le droit commun des collectivités, et dans le cas de cet article 72, la révision constitutionnelle se propose d'intégrer un pouvoir de différenciation qui va plus loin que l'ancien pouvoir d'expérimentation.
C'est pas mal, ça.
C'est pas mal, mais nous pensons qu'il y a besoin d'aller plus loin pour la Corse, même si nous sommes ouverts à la discussion. Nous pensons qu'il faut aller vers un transfert de compétences, qui soit un transfert de compétences législatives, le pouvoir législatif encadré, fait aussi l'objet d'une demande, par exemple, de l'Association des régions de France. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose de subversif, ni de révolutionnaire. Mais nous disons que nous avons besoin, parce que nous sommes une île, parce que nous avons des problèmes économiques particuliers, une situation démographique particulière, d'avoir un transfert de compétences qui va aussi dans le sens du passage d'une logique de subvention à une logique de responsabilité.
Mais vous voudriez être comme des territoires d'outre-mer, vous voudriez être comme la Nouvelle-Calédonie ou comme la Réunion.
Alors, la Polynésie, par exemple.
Ou comme l'îlot de Clipperton qui apparaît dans cet article 72.
Alors là, c'est pour l'anecdote, l'îlot de Clipperton.
Quel est le bon modèle pour la Corse?
Alors moi, je pense précisément que le bon modèle, il est à construire. Il est à construire parce qu'aujourd'hui, manifestement, au-delà du débat constitutionnel, la situation politique d'ensemble fait que, y compris l'État et la République, ont besoin de se repenser et de se reformuler. Donc, que la République soit indivisible. C'est-à-dire, nous n'allons pas contester aujourd'hui cet élément.
Aujourd'hui, vous dites, mais vous voyez bien que le soupçon, c'est
tous
de
les
dire,
mots comptent.
On va vers l'autonomie et après on ira vers l'indépendance.
Soyons très clairs aussi, moi je suis autonomiste. Et je suis persuadé qu'un statut d'autonomie, de plein droit et de plein exercice, avec un transfert des compétences législatives, sera ce qui convient le mieux à la Corse. Donc je suis très clair.
Moi, c'est
la position du mouvement et de la famille politique que je représente, qui est majoritaire au sein de la coalition, qui est aujourd'hui aux responsabilités en Corse. Ouais. Et donc moi, je dis que les Corses se satisferont de ce statut-là.
Juste pour comprendre bien pourquoi, en 2016, l'article 72 vous convient très bien, et vous étiez positionné dessus en disant oui, effectivement, on pourrait en passer par là, pour rester sur le débat constitutionnel encore un instant. Et pourquoi tout d'un coup, là, quatre ans plus tard, c'est plus ce qui convient?
Non, il y avait une délibération qui avait été votée à l'Assemblée de Corse en 2013. Nous n'étions pas aux responsabilités, qui avait représenté un point d'équilibre.
Vous n'étiez pas aux responsabilités, mais vous étiez un poids important et vous travailliez à l'époque avec Jacobi.
Oui, tout à fait, et également avec des élus de droite qui ont voté cette délibération. Et on disait, il faut un article spécifique, article 72-5, pour la Corse, dans le cadre de l'article 72, pour avancer. Et aujourd'hui, nous considérons qu'à partir du moment où il y a l'ouverture d'un espace plus large, je pense que plutôt que d'aller vers peu, allons vers ceux dont nous avons besoin, et ensuite voyons les choses.
Bon, il y a le cadre. J'aimerais qu'on parle du fond et donc des revendications. Jeff.
Justement, sur le fond et sur l'histoire, depuis 1982, il y en a eu beaucoup des changements de statut de la Corse. Il y a eu la décentralisation, le statut JOX, le renforcement des pouvoirs locaux en 2002, après ce qu'on a appelé le processus de Matignon, puis la création de cette collectivité qui a vu le jour le 1er janvier. On a l'impression qu'à chaque fois, eh bien, ça ne suffit jamais. Vous avez demandé à Emmanuel Macron de se comporter en homme d'État par rapport aux concessions qu'il devra faire à vos demandes, mais vous ne pensez pas aussi qu'il a des comptes à rendre à l'ensemble de la population française qui n'est pas prête forcément à faire de nouvelles concessions, entre guillemets, à la Corse.
Gilles Simeoni.
Alors, je pense qu'effectivement, il y a un travail de pédagogie à faire, d'écoute réciproque. Et c'est bien pour ça que nous demandons un dialogue. Il faut un dialogue entre le gouvernement et les élus de la Corse, tous les élus de la Corse, pas seulement la majorité territoriale. Et il faut aussi, effectivement, peut-être, sans doute, mieux expliquer à l'ensemble des Français ce qui se passe en Corse. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas nés en Corse, qui vivent depuis quelques années, qui votent pour nous. Parce qu'ils disent, c'est vrai que aujourd'hui que nous sommes en Corse...
Il y en a d'autres qui trouvent que vous en avez déjà beaucoup aussi, mais, et qui vivent en Corse ou qui vivent sur le continent.
Les choses, si les choses, les statuts successifs qui ont été accordés à la Corse n'ont pas fait l'objet d'une validation et conduisent aujourd'hui à demander plus, c'est peut-être parce qu'on n'a pas mis la barre assez haut, le curseur assez loin, dans la prise en compte de la dimension politique.
Et qu'est-ce qui dit que la prochaine fois vous
en demanderez encore plus ? Alors, on va parler maintenant du fond. Gilles Simeoni.
Trouvons un point d'accord, et nous, c'est pour ça qu'on dit, et le rapport au temps est important, on dit au gouvernement, ouvrons une perspective, y compris pour le statut d'autonomie. On a tout à fait conscience qu'on a une nouvelle collectivité de Corse, qu'on a des politiques publiques à déployer et qu'on ne peut pas se perdre en permanence dans des débats ou des discussions uniquement institutionnelles. Donc nous disons, faisons bien ce que nous avons déjà comme compétences, mettons-le en œuvre ensemble, travaillons, y compris sur une période de 3 ans, à la réflexion sur un nouveau statut et avançons de façon progressive et très pragmatique.
Alors, il y a le statut d'autonomie. Autre question, la co-officialité de la langue corse. Ça, c'est pour le coup quelque chose qui ne concerne pas que les Corses, puisqu'elle concernerait l'ensemble de la République. C'est un point sur lequel vous insistez, mais qui est non négociable pour le gouvernement. Où est-ce que ça en est ?
Alors, c'est un point qui est clairement non négociable pour le gouvernement. Et ce que nous avons dit au Premier ministre lorsqu'il nous a reçus, c'est que nous entendions cette fin de non-recevoir. Simplement, nous disons, lorsque on ouvre un dialogue... On ne peut pas dire à des gens, des élus que nous sommes, qui ont été mandatés pour le suffrage universel pour mettre sur la table des discussions, par exemple, cette proposition de co-officialité, non, on n'en parle pas et on n'en parlera jamais.
Ça voudrait dire bilinguisme dans l'administration, alors, bilinguisme dans la justice, à l'école. Aujourd'hui, le Corse, pour que tout le monde le sache, il fait l'objet d'un enseignement 3 heures par semaine, je crois, à l'école.
Notamment, il peut y avoir aussi des sites où l'immersion linguistique, il y a des expériences qui sont différentes, mais globalement, sans rentrer là encore dans un détail...
Mais si, très concrètement, ça veut dire quand même que vous voulez que les fonctionnaires parlent le corse.
Nous souhaitons...
Donc il existe déjà quelque chose d'important.
D'important, mais manifestement insuffisant par rapport à l'objectif qui est le nôtre, qui est de faire que cette langue corse, qui est partie intégrante de notre identité et qui est aussi un facteur de cohésion, d'intégration et d'ouverture, puisse rayonner et avoir la place qui lui revient de façon naturelle dans la société corse.
La langue, c'est quand même aussi l'unité de la République. Et on voit bien qu'à chaque fois que vous mettez le point sur telle ou telle disposition, ce qui est posé, c'est la place de la Corse dans la République. Est-ce qu'elle est parfaitement intégrée dans la République ? Est-ce qu'elle est à part ? Et est-ce qu'au bout du compte, elle ne quittera pas la République ? C'est toujours ça qui est en question dans les propositions que vous faites.
Moi, je trouve pas.
Vous savez, il y a des États et des citoyens, y compris en Europe, qui vivent de façon tout à fait apaisée au sein d'États qui n'entendent pas quitter et qui, pour autant, pratiquent plusieurs langues qui sont officielles, y compris, par exemple, en Italie ou en Espagne.
Mais ça, c'est la France. La République a une langue, le français. Alors, ça, c'est la règle.
Mais ça, c'est récent. Hein, c'est la révision de 2003 dans laquelle on a inscrit de façon formelle le fait que le français est la langue de la République. Maintenant, encore une fois, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, nous n'en avons ni la volonté ni les moyens. Nous, ce que nous disons aujourd'hui au gouvernement, c'est que si nous demandons le statut de co-officialité pour la langue corse, ou un statut d'officialité, c'est simplement parce que tous les linguistes, y compris par exemple M. Agege, qui ne peut pas être considéré comme un révolutionnaire menacé par les nationalistes corses,
ça, je vous le confirme,
explique que pour une langue minorée, pour une langue en situation de diglossie, la seule garantie de la survie et du développement, c'est un statut de langue officielle. Maintenant, si c'est pas possible dans le cadre constitutionnel actuel, nous on dit réfléchissons et regardons aussi par rapport aux objectifs qui sont les nôtres. Alors, sur la question des fonctionnaires, soyons aussi très clairs, il s'agit pas d'avoir une approche martiale ou agressive de l'enseignement de la pratique de la langue corse. On va pas demander aux gens qui viennent passer 2 ou 3 ans en Corse, eh bien d'apprendre le corse et de s'exprimer comme un berger du Niolo. C'est pas ça.
Donc il faudrait qu'ils sachent quand même un peu parler corse, si
Est-ce que ça vous choque à vous madame, est-ce que ça nous choquerait si on voulait aller travailler à Londres, si on veut aller travailler à Barcelone, si on veut aller travailler en Italie, de demander, parler
quelques... Ce sont des pays indépendants.
C'est des pays étrangers.
Monsieur Simonini, ce n'est pas encore le cas de la Corse.
Ouais. Mais non, la question était posée à Françoise Fraisseau.
Franchement, ça me choque pas qu'un fonctionnaire d'origine continentale qui vient en Corse pour y faire sa carrière choisisse d'apprendre le Corse pour se sentir parfaitement intégré, pour avoir un meilleur contact avec la population qui va venir, avec une personne âgée qui parle mieux corse que français. Je vois pas en quoi ça menace l'indivisibilité de la République et en quoi ça menace la République.
Alors, rapidement, la liste des revendications pour qu'on ait les idées vraiment très claires. Autonomie politique, co-officialité de la langue corse, il y a aussi le statut de résident. Pour que tout le monde ait les idées claires, ça consisterait à réserver l'achat d'un bien immobilier à quelqu'un qui pourrait justifier d'une certaine durée de résidence en Corse, par exemple 5 ans, c'est ce qui avait été voté. Là, que vous répond le gouvernement ? Pourquoi est-ce que ça pose problème ?
À votre avis.
Écoutez, je vous pose la question.
Non, peut-être répond, que c'est inconstitutionnel.
Il nous répond non et il nous dit c'est inconstitutionnel. Donc là, il y a une discussion qui s'installe. Il y avait eu un rapport sous la mandature, l'avant-dernière mandature, qui avait été notamment coécrit sous l'autorité du professeur Carcassonne, qui était
un immense juriste,
constitutionnaliste, et qui lui aussi avait dit c'est très difficile, mais il peut y avoir un chemin constitutionnel pour aller vers un statut de ce type. Là encore, j'insiste, c'est pas une discrimination par rapport à l'origine. Je veux dire, si demain il devait y avoir un statut de résident en Corse, que vous soyez résident depuis 5 ans, que vous soyez né à Cergy-Pontoise, à Bastia ou à Londres, vous bénéficiez du statut de résident. Nous, le statut de résident, c'est pas l'alpha et l'oméga de notre politique foncière et immobilière. Nous, ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui... Pardon,
je vous en... non,
juste
je...
un mot.
Jeff,
oui, laissez-le terminer.
Un Anglais, par exemple, venant en France et s'installant depuis 6 mois, pourrait acheter un bien en France, mais un Français venant en Corse ne pourrait pas le faire. Est-ce que vous trouvez cela logique et acceptable et normal?
Il y aurait une différence de statut, mais est-ce que le problème, c'est que la situation du marché foncier immobilier en Corse n'est pas la même que la situation du marché foncier immobilier dans l'ensemble continental. Je sais qu'il y a des endroits à l'île de Ré et ailleurs, et d'ailleurs, quand on discutait, y compris avec Madame Lebranchu, qui s'était intéressée à la question du statut de résident, elle avait dit, je veux pas trahir nos discussions, mais elle aura l'occasion de s'exprimer publiquement, je pense, c'est vrai qu'il faut réfléchir à des statuts de résident ou des formes de statut de résident, y compris sur le continent. Donc moi, demain, je veux dire, faire preuve aujourd'hui d'inventivité juridique. Moi, je vous dis, en Corse, depuis 10 ou 15 ans, les prix du marché foncier immobilier, sous l'effet notamment de la spéculation, ont été multipliés par 10, par 20, par 30. Ça veut dire concrètement que vous avez 70, 80, 90% de la population en Corse, qu'elle soit corse d'origine ou pas, les gens qui vivent en Corse, qui peuvent plus accéder au foncier. Ça veut dire que vous avez des agriculteurs qui ne peuvent plus accéder à la terre. Ça veut dire, en gros, que vous créez une fracture qui est une fracture irréductible entre ceux qui ont tout, qui sont très peu, et beaucoup qui n'ont rien ou qui n'auront plus rien. Et nous, nous disons, ça, c'est pas possible. Ça n'est possible nulle part. Mais encore moins dans une île où la proximité est totale et où on ne veut pas se retrouver dans des situations de discrimination et d'opposition et de balkanisation de la société. Donc on répond ça. Alors là encore, c'est comme sur la co-officialité. Nous, on dit au gouvernement, si aujourd'hui on ne peut pas le faire, faisons autre chose. Réfléchissons ensemble à des mesures, y compris compatibles avec la Constitution actuelle ou révisée, pour répondre à cela. Et si ces réponses-là sont transposables à l'ensemble français, tant mieux. Parce que moi, vous savez, je veux le dire aussi aujourd'hui à vos éditeurs, nous, on ne demande pas en permanence la reconnaissance d'un particularisme. On ne dit pas qu'on est meilleur que les autres,
un
mieux que les...
Un petit peu, quand même.
Mais un particularisme...
Insiste de Françoise Fraisseau.
Chaque fois que c'est justifié par une circonstance objective, le Conseil constitutionnel, qui défend le principe d'égalité, dit aussi que les différences de situation, non seulement permettent, mais quelquefois même imposent les différences de traitement.
Différence de traitement, encore un mot, puisque c'est l'une des questions que vous voudriez voir examinée par le gouvernement. Et là aussi, la réponse est non. C'est le rapprochement de ce que on appelle les prisonniers politiques, les indépendantistes qui sont détenus pour faits de terrorisme. Ils sont 8 à être incarcérés sur le continent. Oui. Vous voudriez qu'ils soient transférés à la prison de Borgo, près de Bastia. Pourquoi est-ce que c'est un sujet aussi qui pèse autant dans vos revendications, alors qu'on va en parler dans un instant avec Karine et Françoise? Il y a le quotidien des Corses, il y a la vie économique des Corses, il y a des problèmes majeurs qui sont peut-être plus urgents et qui concernent toute la population corse.
2 minutes, je les ai.
Prenez-les, vous êtes là pour ça, pour nous expliquer vos combats et pourquoi aujourd'hui, ces revendications masquent peut-être le reste de la vie quotidienne des Corses.
Toutes les questions du quotidien sont au cœur de nos préoccupations. Premier point. Deuxième point. ça s'entend pas assez. Alors, je vais essayer de le dire.
On va y venir.
Nous allons essayer de le dire mieux et plus fort
et
de l'expliquer.
D'abord, les prisonniers,
aujourd'hui,
et on y vient.
On sort d'une période de 50 ans qui a été une période de conflit entre la Corse et la République. Cette période de conflit, elle a connu son acmé avec l'assassinat du préfet Rignac, qui est, au-delà du drame humain, de la tragédie humaine, qui est ce qui représente le point le plus douloureux au plan politique, symbolique, de cette affaire. Mais en arrière-plan de tout ça, il y a eu des dizaines de morts, il y a eu des milliers d'attentats, il y a eu des milliers de personnes en prison. Cette page-là, nous voulons qu'elle soit derrière nous. Et nous avons tout fait pour, et nous disons, c'est terminé. La logique du conflit, pour nous, c'est terminé. Ces personnes dont vous parlez, elles sont 11. C'est pas les 200 prisonniers basques. C'est pas le même poids. Il y a 11 personnes. Laissons de côté la question de l'amnistie. Nous l'avançons, on veut pas. D'accord. On dit simplement, appliquer le droit.
Vous l'avancez.
Le droit, rien que le droit, pour ces 11-là. Quels que soient les crimes pour lesquels ou les délits pour lesquels ils ont été condamnés, ils ont droit au rapprochement, y compris les trois personnes qui restent condamnées et détenues au titre de leur participation à l'assassinat du préfet Erignac.
Pour ces personnes, vous avez des prisons qui n'apportent pas les niveaux de sécurité nécessaires pour pouvoir les récupérer.
Non, madame. Sincèrement, cet argument-là ne résiste pas à l'examen. Il y a pas de problème. Si demain, il y a la volonté d'appliquer loyalement le droit, les 11 personnes seront rapprochées, y compris les 3
donc
qui ont
vous
participé.
Vous l'interprétez comme une volonté symbolique de ne pas céder à votre demande sur ce point.
C'est pas une interprétation, ça nous a été dit très clairement.
C'est-à-dire
qu'on nous a dit très clairement que, quel que soit le droit applicable, les 3 personnes qui sont condamnées dans le cadre de l'assassinat du préfet Rignac ne pourront pas rentrer en Corse. Et ça, même si nous avons le plus grand respect pour la douleur de la famille du préfet, même si nous mesurons le poids symbolique et politique de l'assassinat, même si nous comprenons qu'il y a des contingences de calendrier qui font qu'on ne peut pas en parler maintenant, à quelques jours de la commémoration de l'assassinat, nous disons qu'à partir du moment où on est dans la logique de l'état de droit, où on est dans la logique de la justice, où on est dans la logique de l'application du droit, on ne peut pas appliquer à ces 3 personnes une peine d'éloignement qui n'est prévue par aucun texte.
Karine.
On passe au bilan économique peut-être.
Évidemment.
Vous avez un taux de chômage qui est très fort en Corse. Qu'est-ce que vous avez fait par exemple, puisqu'on le redit, ça fait 2 ans que vous êtes à la tête de la collectivité territoriale. Quel est votre bilan économique? Qu'est-ce que vous avez réussi pour l'instant à faire pour tous ces gens qui sont au chômage?
Alors, je vous rappelle,
Gilles Simeoni,
je vous rappelle que la politique de l'emploi reste actuellement une prérogative exclusive de l'État.
Dit-il avec un petit sourire.
Ça pourrait être un exemple où, si, moi, vous savez, lorsqu'on a des compétences et des responsabilités, nous assumons et nos réussites et nos échecs. Sur l'emploi, nous n'avons pas la maîtrise. Par contre, nous avons la maîtrise sur le développement économique. Donc, nous avons adopté un schéma de développement économique. Nous avons été la première région à le faire. Nous avons soutenu les entreprises. Nous avons renforcé, y compris dans un contexte budgétaire très difficile, parce que nous avions à gérer un passif hérité des présentes mandatures, notre effort sur les dépenses d'investissement et de fonctionnement dans les domaines de l'éducation, de la formation, parce que nous considérons que c'est la clé de la réussite pour aujourd'hui et pour demain. Nous avons mis en place des mesures de soutien pour les petites et moyennes entreprises. Donc nous avons une action volontariste qui s'est traduite, y compris dans des indicateurs statistiques, qui, lorsqu'ils interviennent dans des champs dans lesquels nous avons la compétence, se sont améliorés, y compris par exemple en
donc
matière
de
développement touristique. Mais bien sûr, dans le domaine du tourisme, par exemple, les chiffres du tourisme sont bien meilleurs depuis que nous sommes aux responsabilités qu'ils ne l'étaient avant. Maintenant, en 2 ans, vous le savez, on ne change pas radicalement une équation. Mais nous avons beaucoup travaillé, et je crois que, je vous le disais tout à l'heure, les Corses le savent, dans tous les domaines. Et ils nous en sont gré. Maintenant, nous n'avons fait que notre travail, et nous voulons le continuer.
Françoise,
Que serait le développement économique de la Corse sous un statut d'autonomie? Qu'est-ce que vous pourriez faire que vous ne faites pas aujourd'hui?
Gilles Simeoni.
D'abord, nous pourrions mieux maîtriser, par exemple, notre investissement à partir du moment où nous aurions une meilleure visibilité sur nos ressources et que ce serait des ressources qui proviendraient de l'activité économique de la Corse et pas seulement du transfert de subventions, etc. Mais de toute façon, notre schéma économique et notre stratégie économique, nous l'avons et nous voulons la mettre en place. Et nous n'allons pas attendre, pour être très clair, un statut d'autonomie. Nous n'avons pas attendu un statut d'autonomie pour commencer à développer cette stratégie économique. Donc, nous voulons passer, en gros, il y a eu une économie qui a été une économie construite sur la rente. sur la dépendance, qui s'est organisé autour de deux grands pôles.
Et certains vous diront de l'aide de l'État,
mais
pour casser la dépendance.
Aussi sur l'aide de l'État, mais je dirais principalement une aide de l'État qui malheureusement a souvent été dévoyée, captée, y compris par des réseaux parallèles et occultes, donc il y a aussi un enjeu de transparence et de démocratie. Donc nous voulons rééquilibrer ce système, passer d'une logique de rente à une logique de responsabilité, passer d'une logique de dépendance à un tourisme de masse, à un tourisme qui continue à avoir un rôle de locomotive, mais qu'il soit un tourisme beaucoup mieux maîtrisé, y compris dans la gestion de nos ressources naturelles, parce que nous considérons que la Corse doit être un territoire pionnier en matière de développement durable. Nous avons la volonté de développer une agriculture qui, aujourd'hui, reste totalement marginale, et qui, pour nous, est un enjeu qui dépasse les questions de PIB, mais qui doit aussi se traduire en termes de place majorée de l'agriculture dans le PIB, avec les circuits courts, avec une agriculture de production, alors que, y compris les aides de l'État européenne, sont venues maintenir artificiellement des gens dans des situations, parce qu'il y avait une situation de précarité économique et sociale, mais sans avoir une réelle agriculture de production. Nous avons la volonté de mettre en valeur nos ressources naturelles, y compris dans le domaine de l'énergie, où il faut sortir du fioul lourd pour aller vers des énergies renouvelables, et nous y travaillons activement.
Tout un modèle de développement.
Un modèle de développement, et
alors,
y compris...
Combien demandez-vous à l'État aujourd'hui? Combien demandez-vous à l'État, puisque le dernier plan de 2 milliards d'euros arrive à échéance?
Je voyais le député de la France Insoumise. Nous ne sommes pas là pour demander à l'État, sortez le chéquier.
Christophe Ruffin.
Monsieur Ruffin.
Un geste, le carnet de chèques. Voilà. Non,
nous ne sommes pas là pour dire à l'État sortez le chèque. Nous sommes là pour dire mettons-nous autour de la table, réfléchissons et définissons ensemble une stratégie.
Ali, vous m'avez promis de me donner la parole. Juste une question, le dynamisme économique. Est-ce que ce n'est pas aussi l'ouverture au monde? Il y a beaucoup de Corses qui n'habitent pas forcément sur l'île, qui sont sur le continent, mais qui sont très attachés encore à la Corse, et qui trouvent qu'aujourd'hui, il manque un certain esprit d'ouverture, d'aventure même des Corses. Un ami corse me racontait par exemple qu'un jeune avocat de 27 ans, de ses connaissances, fraîchement diplômé, n'avait qu'une ambition, c'était de travailler en Corse dans les années à venir. Il trouvait ça un peu dommage, il trouvait qu'il y avait une sorte de repli. Pourquoi les Corses ont tant envie de rester entre eux? On revient au statut de résident.
Gilles Simeoni.
Non, on n'a pas envie de rester entre nous. Nous avons envie de construire notre pays, de construire la Corse, et nous considérons que la Corse est aussi notre pays. En Corse, un pays, ça se dit un paese. C'est à la fois le village et le pays. Mais ceci étant, bien sûr qu'il
les
faut
mots sont importants, bien sûr, c'est la traduction.
Bien sûr qu'il faut s'ouvrir au monde. Bien sûr qu'il faut s'ouvrir à la France.
Vous avez quand même un petit côté
de nationaliste, on s'ouvre
pas
au monde.
Pas tous en
on
même temps.
On est dans le repli. On
peut être nationaliste.
Ça, ce sont des slogans. Écoutez, il faut qu'on parle. Il faut qu'on apprenne à mieux se connaître. Ça, ce sont des slogans des années 70 et des années 80. La Corse aux Corses, ça correspond pas à ce que nous sommes aujourd'hui. Nous disons qu'il y a un peuple corse, que ce peuple corse, il est composé des gens qui sont nés en Corse, qui sont partis ailleurs, quelquefois, la Corse de la diaspora, elle doit être intégrée pleinement, y compris dans notre stratégie économique. Et le peuple corse, pour nous, ce sont aussi les gens qui vivent en Corse, quel que soit leur lieu de naissance, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, et qui participent du projet collectif qui se construit, et qui n'est pas forcément un projet nationaliste. Donc nous sommes très clairs de ce côté-là. Sur la nécessité de s'ouvrir à l'extérieur, vous me demandez qu'est-ce qu'on a fait. Par exemple, nous, on a mis en place un programme qui s'adresse pas seulement aux étudiants, qui s'adresse à tous les jeunes au-dessus de 18 ans, pour qu'ils partent, pour qu'on les aide à partir ailleurs, pour se former, pour apprendre, et ensuite, nous espérons qu'ils auront envie de revenir. Voilà. On est dans cette philosophie, vraiment.
Le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, notre invité.
France Inter, question politique.
20 ans après l'assassinat du préfet Claude Erignac, un hommage lui sera donc rendu mardi à Ajaccio. Cérémonie en présence de ses proches, les proches de Claude Erignac, en présence du président de la République et en votre présence, Gilles Simeoni, vous qui avez défendu Yvan Colonna, vous qui avez clavé son innocence, qu'est-ce qui a changé pour que cette scène qui paraissait absolument inimaginable il y a encore peu soit possible?
J'ai défendu Yvan Colonna. Il a clamé, il continue de clamer son innocence. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité de façon définitive et il purge sa peine. Je suis aujourd'hui le président du Conseil exécutif de Corse. Je considère qu'il est de ma responsabilité d'être présent à cette cérémonie pour des raisons symboliques, pour des raisons politiques et aussi pour exprimer fortement notre volonté, qui est celle à la fois de ne rien taire de ce passé douloureux, de ne rien occulter, d'intégrer notre réflexion sur ce passé douloureux dans une vision globale de ce qu'ont été les relations entre la Corse et la République.
C'est pas la première fois que vous serez à un hommage solennel rendu à Claude Irignac. Vous y étiez le 6 février 2017, le 6 février 2016. Mais vous reconnaissez quand même que là, ça va être très particulier. Vous serez aux côtés donc des proches de Claude Irignac, du président de la République qui rendra hommage à celui qui incarnait l'autorité de l'État en Corse. Et votre présence, malgré tout, comme ancien avocat d'Ivan Colonna, tout ça fait une scène qui sera observée de près.
C'est une scène effectivement très forte et qui a beaucoup de sens. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai dit, et nous avons dit ensemble, avec Jean-Guy Talamone, qui lui ne sera pas là, pour des raisons
et
qu'il a expliquées.
Il ne sera pas là d'ailleurs.
Et qui ne tiennent pas à une divergence de fond entre nous. Jean-Guy Talamone a expliqué que, eu égard à son parcours, eu égard à ses engagements, qui ne sont pas les miens, il considérait que sa présence pouvait être susceptible de heurter, y compris les organisateurs de la manifestation, ou y compris la famille,
les proches, la famille
du préfet Irignac.
Donc on se doute qu'elle n'aurait pas forcément souhaité sa présence.
Exactement.
Il a fait un peu de provocation, ou en tout cas des propos qui peuvent être mal interprétés. Jean-Guy Talamone, il a dit qu'il n'y sera pas, mais qu'il avait proposé sa place à la cérémonie en l'honneur de tous ceux qui ont perdu la vie dans un long conflit aujourd'hui terminé.
Non,
comme s'il mettait
pas...
l'équivalence.
Non, c'est pas ça.
Entre le décès de Claude Irignac et tous ceux qui sont tombés pendant ces
Il a dit qu'il souhaitait, précisément parce que cette cérémonie va revêtir un caractère particulièrement fort et particulièrement symbolique, il souhaitait, et nous souhaitons, si cela pouvait être possible, que cette commémoration soit bien sûr l'occasion pour l'État de rendre hommage à cet homme, qui était aussi un serviteur de l'État et un très haut fonctionnaire. Mais en même temps, de dire que 20 ans après, 20 ans c'est une génération, il est peut-être temps aussi d'ouvrir ensemble le chemin de la paix et de la réconciliation. Nous sommes dans cet état d'esprit.
Françoise Fressos.
Mais avec quand même deux attitudes différentes, et vous êtes au fond un duo au sein de cette région. Et est-ce que le fait qu'il y a quand même des différences entre un qui prône l'autonomie, l'autre qui peut être plutôt pour l'indépendance, l'un qui est pour la réconciliation, l'autre qui a du mal à la faire, est-ce que c'est pas, au fond, la fragilité du duo que vous incarnez aujourd'hui pour essayer de faire avancer la Corse?
Je ne crois pas que ce soit la fragilité, je crois que c'est au contraire la force. Dans cette entreprise de réconciliation, et dans cette entreprise aussi de reconstruction et de remaillage de la société corse, il faut impérativement que ne manque aucune force et aucune composante. Vous disiez tout à l'heure, et il n'y a pas de contradiction. Moi, j'ai été élu président du Conseil exécutif dans une liste où il y avait des indépendantistes. Il est important que tout le mouvement, et ce n'est pas encore le cas, mais ça sera le cas, que tout le mouvement nationaliste parle d'une même voix. Et en même temps, il faut aussi que nous ayons la force de construire avec ceux qui ne sont pas nationalistes au sein de notre société, la droite, la gauche. Et c'est parce que nous serons ensemble capables, y compris de surmonter nos différences en les respectant, d'appuyer sur nos convergences, d'ouvrir un chemin que nous allons réussir. Alors, est-ce que ça sera trop tôt pour le faire mardi prochain? Est-ce que ça sera trop tôt pour que le président de la République porte cette parole-là? J'espère que non. Nous y sommes prêts. Et nous savons, même si nous ne comparons pas ce qui s'est passé en Corse à ce qui s'est passé ailleurs, en Irlande, au Pays Basque, en Afrique du Sud, mais nous savons qu'on ne sort de conflit de façon définitive qu'en ayant le courage d'assumer sa propre part de responsabilité et le courage aussi de reconnaître l'autre dans ses douleurs, dans ses deuils et dans ses tragédies.
Il nous reste quelques secondes, Gilles Simeoni. D'un mot, qu'est-ce que vous diriez au président de la République pour ouvrir le dialogue, pour le convaincre d'ouvrir le dialogue?
Le moment est venu et je crois que la Corse et la République ont rendez-vous ensemble avec l'histoire.
Merci d'avoir été notre invité. Comment dit-on, bon voyage en Corse?
Bon viaggio.
C'est tout ce qu'on vous souhaite. Vous retournez tout de suite à Ajaccio. Question politique se termine. Merci à tous les trois. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission. Quant à moi, je vous retrouve juste après le journal d'Yves Decamp pour le grand face-à-face de France 1. À tout de suite.